Bonjour à tous pour ceux que j'ai pas encore vus. Ce matin, je vais partager avec vous un psaume, le psaume 51. Et c'est un psaume que j'ai choisi parce que la semaine dernière, on a écouté ici des témoignages. Les témoignages de Vanessa, de Gaël et de Simon qui nous ont partagé leur conversion et leur marche avec Dieu. Et dans ces témoignages, ce qui m'a touché, c'est qu'ils ont pu nous partager leur retour vers Dieu. Ils ont pu nous partager le fait que leur vie n'avait pas été rectiligne, une vie de croissance ininterrompue depuis la conversion jusqu'à là où ils en sont maintenant, mais ça avait été une vie où ils avaient traversé des déserts, ils avaient vécu des hivers. Et évidemment, ça, je pense qu'on est tous touchés par ça, parce que c'est vrai, c'est comme ça qu'est notre vie. On a des moments où on traverse des déserts. Et j'avais envie donc ce matin de partager avec vous un exemple que nous donne la Bible d'un homme de Dieu qui est tombé et que Dieu a relevé. Et cet homme de Dieu, c'est David. Et vous connaissez bien sûr ce passage de la vie de David où après avoir traversé de nombreuses épreuves, des moments où sa vie était en danger, où Dieu l'a choisi pour devenir roi d'Israël, où David est tombé, il a quitté le champ de bataille, il est revenu à Jérusalem, il a vu Bathsheba qui prenait son bain, il l'a désiré, il a couché avec elle. Et quand elle est tombée enceinte, il a fait tuer son mari. Vous connaissez cette histoire. Et David a écrit un psaume suite à ce qu'il a vécu à ce moment-là. Et donc on va le lire et puis on va regarder ensemble le chemin que Dieu a fait prendre à David pour le ramener à lui. Donc, je lis dans la traduction du Semeur. Psaume 51, un psaume de David, qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui après qu'il eut péché avec Bathsheba. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes torts, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc même que la neige. Fais que j'entende à nouveau les cris de joie et de l'allégresse. Les eaux que tu as broyées se remettront à danser. Ne regarde plus mes fautes, tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence. Ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut, affermis-moi par ton esprit généreux. Alors, je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris, pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô toi, Dieu, qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai ton salut. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice, je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, Fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi, holocauste et offrande totale, et l'on offrira des veaux sur ton autel. Dans ce chemin que parcourt David pour revenir à Dieu, il y a plusieurs étapes. La première étape, dans les premiers versets de ce passage, on voit David qui reconnaît son péché et qui décrit les effets que ce péché ont eu sur lui. On définit souvent le péché comme manquer le but. Et cette expression peut parfois nous donner l'impression que le péché, c'est quand, au lieu de toucher le 100 qui est au milieu de la cible, on touche le 80 qui est sur le côté, ou le 60. En fait, le péché, c'est pas quand on manque le 100. Le péché, c'est quand on se tourne et qu'on vise dans l'autre direction. Et c'est ça qu'on fait quand on pêche contre Dieu. On lui tourne le dos. Et Dieu se sépare de nous à cause de ça. Dans le témoignage de Gaëlle la semaine dernière, elle expliquait que dans sa vie avec Dieu, il y avait beaucoup de pourquoi. Et pour moi aussi, il y a des pourquoi. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre Dieu. J'ai du mal à comprendre sa sainteté. J'ai du mal à comprendre aussi son amour et sa bonté. La sainteté de Dieu l'a poussé à mettre Adam et Ève en dehors d'Éden, à leur fermer la porte avec un ange et une épée de feu, à les condamner à la mort, parce que Ève et Adam avaient désobéi à l'interdit qu'il avait posé. Dans le même temps, David, qui est adultère et meurtrier, Dieu va le pardonner. J'ai du mal à comprendre. Cette façon de faire. Si ça avait été moi, j'aurais sûrement fait différemment. On passe notre temps à reprendre nos enfants et souvent à être indulgent avec eux. La façon dont Dieu réagit par rapport au péché, mais étrangère. Moi, je suis pas, j'ai pas cette sainteté. J'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que Dieu réagit comme ça. Pourquoi est-ce que Dieu demande pourquoi la conséquence du péché, c'est la mort? Pourquoi est-ce que il faut une vie pour racheter cette faute? Je comprends pas pourquoi. Mais David, dans son retour à Dieu, David reconnaît sa faute, reconnaît son péché et reconnaît la justice de Dieu. Je sais pas si David comprenait mieux Dieu que moi, peut-être, sûrement. Je pense pas qu'il le comprenait complètement. Et pourtant, David va accepter, il va reconnaître, il va se mettre à genoux et accepter ce que Dieu va dire sur son péché. David va pas le faire tout seul d'ailleurs, l'introduction de ce psaume le dit, il faut que le prophète Nathan vienne le voir et lui dise « Regarde ce que tu as fait ». David était probablement dans ce que Simon, la semaine dernière, décrivait comme un hiver spirituel. Après des sommets de proximité avec Dieu, David s'était éloigné. Probablement, il n'avait rien à faire à Jérusalem à ce moment-là, alors que ses soldats combattaient au loin. Il aurait probablement dû être là-bas. C'était là-bas sa place. Il n'était pas à sa place. Et la conséquence du péché sur David sont terribles une fois qu'il en a pris conscience. David parle d'os brisé, d'un péché qui est constamment devant ses yeux. Dans d'autres psaumes, il parle de cris qu'il pousse vers Dieu, de supplications. Et évidemment, le péché est attirant, comme un fruit délicieux sur un arbre, comme une belle femme qui se baigne. Mais Cette attraction du péché repose sur un mensonge, comme ce péché originel, un mensonge, sur l'idée que l'interdit que Dieu a posé, que cet interdit nous emprisonne, alors que l'interdit que Dieu pose nous libère. Quand nous vivons notre relation à Dieu comme une contrainte, plus qu'un encouragement, si nous vivons ces interdits comme quelque chose qui nous emprisonne, alors on a déjà ouvert la porte à la désobéissance. C'est peut-être ça, cet hiver spirituel, quand notre regard sur Dieu est faussé. Quand le chemin devient trop étroit. Le Seigneur nous parle de ce chemin vers lui, qui est étroit comparé à celui qui est large pour la perdition. Et parfois, on a ce sentiment qu'il y a tellement d'autres choses à faire à l'extérieur et loin de Dieu. Et souvent, là, c'est parce qu'on a oublié qu'il y a d'autres dimensions dans notre vie. L'image que j'avais en tête en pensant à ça, c'était que ce chemin large, souvent, il est bien bas. Et que pour marcher dessus, il faut se courber. Il faut même ramper. Alors que le chemin étroit que le Seigneur nous propose, le plafond est beaucoup plus haut. Et parfois, on oublie de regarder un peu vers le haut pour s'apercevoir que dans la marche avec Dieu, la liberté est tellement grande. Avec la transgression vient la séparation, vient l'esclavage et la mort. C'est un état que tout le monde ne perçoit pas. On a autour de nous des milliers, des millions de gens qui ne se rendent pas compte de cette mort et de cet esclavage. Et cette expérience spirituelle, quand on la vit comme David l'a vécu, comme nombre d'entre nous l'avons vécu, ben cette expérience, c'est une bénédiction. Une bénédiction que Dieu nous donne, une action de son esprit en nous, qui nous pousse à nous rappeler qui est Dieu. Et c'est ce que David va rappeler dans ce psaume, dans les 11 premiers versets. Il nous parle de son péché, mais il nous parle surtout de Dieu, de qui il est. Et il nous parle de sa bonté, de son amour, de sa tendresse. Il nous parle de son pardon, de ce pardon qui est complet, de ce pardon qui nous rend plus blanc que la neige, comme on l'a chanté tout à l'heure. Il nous parle du sacrifice qui est suffisant, de la vie versée. Alors à l'époque de David, le sang était répandu, était projeté avec cet hysope dont il est question ici. Bien sûr, ce sang versé, c'était une image du sang versé par le Christ et qui nous rachète complètement, qui rachète même le meurtrier. Et David connaissez ce Dieu-là. C'est pour ça que c'est si important d'être enseigné, si important de savoir qui est Dieu, si important de savoir que, quel que soit notre état, nous pouvons toujours revenir vers lui et que son accueil sera complet. David nous parle de cette restauration, de la restauration qu'il va vivre. Là aussi, cette restauration, on voit qu'elle a plusieurs dimensions. Il va nous parler du renouvellement de ses émotions. Il nous parle de la joie, de l'allégresse qu'il a à retrouver la présence de Dieu. Il nous parle du renouvellement de son intelligence. Dieu crée en nous un cœur pur, un esprit bien disposé. Dieu change notre façon de penser, de voir, de comprendre. Une restauration spirituelle. David nous rappelle que l'Esprit de Dieu est présent dans notre vie. Pour nous qui sommes sous la Nouvelle Alliance, cette présence a encore une dimension supplémentaire. Dieu vient habiter jusque dans notre propre corps. David parle de ce retour de l'Esprit. Il demande à Dieu de ne pas lui retirer son esprit, comme Dieu l'a fait pour Saül, par exemple. On peut avoir l'impression que l'Esprit s'est retiré de nous. La parole nous dit qu'il n'en est rien, que nous sommes ses enfants, qu'il nous a marqués de son sceau, que nous lui appartenons jusque dans l'éternité. Son esprit ne s'est pas retiré, mais nous pouvons l'avoir mis dans un boisseau, éteint sa voix. Cet esprit revient dans la vie de David et lui montre la liberté, cette liberté qu'il y a en lui, une liberté qui n'est pas une liberté passive, parce qu'après la restauration de son être intérieur, Dieu va restaurer David dans ses relations avec ceux qui l'entourent. Il nous dit « Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. » La restauration de la relation avec Dieu restaure aussi notre relation avec nos frères et sœurs, avec ceux qui nous entourent, et nous permet de témoigner, nous permet d'entendre, de voir ce que Dieu attend de nous, ce qu'il place devant nous à accomplir, là où il nous appelle à servir. Et je termine par une dernière dimension de cette restauration. David termine son psaume avec cette phrase où il nous dit « Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. » Les murs de Jérusalem, ça fait écho à l'édifice à l'édification de l'Église dont Pierre parle. En restaurant ce que nous sommes, Dieu restaure aussi nos communautés. Dieu restaure son Église. Dans les témoignages qui ont été apportés la semaine dernière, il a souvent été fait mention de l'accueil. De l'accueil de ceux qui reviennent, dans les témoignages qui nous ont été partagés aussi ce matin par Eric, de l'accueil de ceux qui arrivent. Et c'est vrai que dans nos églises, on peut être, disons, plus tolérant, plus C'est plus facile peut-être d'accueillir des gens qui arrivent de l'extérieur. On comprend qu'ils ne savent rien peut-être et on va être plus accueillant avec eux. Pour ceux qui reviennent, souvent, ce n'est pas toujours aussi facile. Et pourtant, on en a besoin de savoir que notre communauté va nous recevoir, même ceux qui sont tombés, même ceux qui se sont éloignés. Dieu les accueille, nous devons les accueillir aussi. Et la parole nous parle de pierre vivante, et je terminerai en lisant d'ailleurs ce passage de Pierre. De pierre vivante qui forme l'édifice de l'Église. Cette semaine, je réécoutais un morceau de musique qui est assez connu de Pink Floyd, qui s'appelle The Wall. Je ne sais pas si ce morceau, ça vous parle, il est assez connu. Et dans cette chanson, il est parlé de professeurs qui formatent leurs élèves et qui en font des briques dans un mur. Des briques dans un mur. Et à la fin de cette chanson, les élèves se révoltent et détruisent l'école. Les églises peuvent devenir aussi des endroits où on essaie de formater les gens pour en faire des briques. Des briques dans un mur où il faut que tout le monde ait la même taille et la même forme. La parole nous dit que Dieu ne construit pas l'église avec des briques, mais avec des pierres. Moi, je suis pas maçon, ça m'est déjà arrivé de remonter un peu des murs en pierre. On est à une région où on a beaucoup de restants, qu'on voit ce que c'est, des murs en pierre. Personnellement, je trouve ça plus joli que des murs en briques. Dans un mur en pierre, en particulier en pierre sèche, il n'y a pas une pierre qui est la même. Elles sont toutes des formes différentes. Parfois, il faut casser un peu des morceaux pour arriver à les faire entrer, mais chaque pierre est différente. Et c'est ça que Dieu utilise pour construire l'Église. Alors, je vais lire pour conclure ces versets qui se trouvent dans 1 Pierre au chapitre 2. Christ est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui, et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Dieu ne change pas. Nous sommes souvent inconstants, faillibles. Dieu, lui, ne change pas. Sa bonté demeure. Son amour pour nous demeure. Le sacrifice de Christ accompli une fois pour toutes demeure. Quelle que soit la saison de votre vie, le printemps, l'été, l'automne ou l'hiver, Dieu vous appelle. Il vous appelle à lui. Il vous appelle et il vous envoie. Il vous envoie vers les autres. Ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui le connaissent et qui ont besoin d'être relevés. Il vous appelle dans l'Église, il vous appelle dans les Gédéons, il vous appelle dans vos familles. Il vous appelle pour glorifier son nom. Pour que chaque homme puisse savoir qui il est, puisse recevoir sa vie. Alors, sur ce chemin, que le Seigneur vous bénisse.